Donc, nous continuons notre série d'enregistrements centrés sur le type d'interprétation proposée sur ce site internet à la rubrique Espace biblique et puis lire la Bible et enfin le lien Interprétation, la lumière, la tradition de l'Église. Alors, comme le lien l'indique, il ne s'agit pas d'une interprétation personnelle, mais bien d'une interprétation que l'Église a pratiquée depuis les premiers siècles, à commencer par les auteurs du Nouveau Testament, et qui s'est prolongée par les pères d'Église. Et enfin, nous joignons aussi à ce type d'interprétation spirituelle, l'interprétation dite historique, qui se pratique couramment de nos jours. Donc nous avons là quatre types d'interprétations, historiques, allégoriques, tropologiques et anagogiques, qui brossent vraiment un portrait assez complet de la parole de Dieu. Alors n'oublions pas bien sûr que c'est éclairé par l'Esprit que nous arrivons à interpréter ce texte pour notre vie aujourd'hui. Alors, pour ce faire, je vous propose ici un texte du Nouveau Testament, et vous allez voir que c'est les quatre interprétations spirituelles, y compris l'allégorie, qui marchent très bien pour le Nouveau Testament. Enfin, j'aime pas trop le terme marche, parce que c'est pas une technique, hein, d'abord. Ce sont que des orientations. Alors, nous allons d'abord prier l'Esprit Saint qu'il nous guide, puis lire le texte et enfin avoir un temps de silence et de prière après ce texte. Et puis nous aborderons sur cet enregistrement seulement les deux premières interprétations, celle historique et littérale dans un premier temps, et puis l'allégorique, c'est-à-dire celle centrée sur le Christ et son œuvre, notamment sur la croix. Et puis entre chaque interprétation, nous aurons un petit temps de prière, et puis enfin nous relirons le texte biblique avant de prier une dernière fois. Voilà. Alors commençons d'abord par invoquer l'Esprit Saint. Je te prie, Seigneur, je te prie, Saint-Esprit, afin que tu daignes écarter tout nuage, toute ténèbre qui, par le fait de nos péchés, pourrait obscurcir notre vue. Donne-nous l'intelligence spirituelle et merveilleuse de ta parole, sur le mot du psalmiste, ouvre mes yeux et je contemplerai les merveilles de ta loi. Le texte que nous allons lire, donc, se trouve dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 4, versets 8 à 13. En voici la lecture. Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, sans nous vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants, ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayeurs du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Oui, Seigneur, aide-nous vraiment à ce que cette parole rentre dans nos cœurs et qu'elle devienne nourriture. Amen. Alors, nous allons commencer par l'interprétation littérale et historique, qui va nous donner un petit peu le contexte. Ce passage de la première épître aux Corinthiens ne se comprend pleinement que si le contexte historique et culturel est connu. En effet, on comprend mieux l'opposition que fait saint Paul entre ce que lui et ses compagnons de mission vivent et ce par quoi la communauté de Corinthe semble touchée, si l'on connaît d'abord la réputation de Corinthe à l'époque. Ce qu'il faut savoir, c'est que Corinthe était alors réputée pour être une cité cosmopolite, où se mêlaient de nombreux courants philosophiques et religieux. Cette réputation devenait franchement négative quand on s'intéressait à son aspect social. Cette ville, à cet égard, était pour l'Empire romain la lie de la Grèce, tant elle comptait d'esclaves et de gens de basse extraction. Il n'est alors pas étonnant que Corinthe finit par être synonyme de mœurs relâchées. Paul lui-même souligne la modeste origine sociale des membres de l'église de Corinthe. Confère 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 26 à 29. Les problèmes moraux sont aussi évoqués dans la lettre, confère les chapitres 5 et 6. Le chapitre 5 traite même d'un cas d'inceste au sein de la communauté. Un membre couche avec sa belle-mère. De plus, le fait que la plupart des membres viennent du paganisme accentue la tentation de retourner aux anciennes mœurs. Bref, l'église de Corinthe, fondée par Paul, confère Actes chapitre 18, lui donna beaucoup de fil à retordre, comme en témoignent ces deux lettres adressées à cette communauté. Pour en revenir à ce passage, il souligne un aspect qui n'a pas encore été abordé, à savoir la division qui minait la communauté. Les versets précédents suffisent à notre information, confère 1 Corinthiens chapitre 3 et 1 Corinthiens chapitre 4 verset 6. D'après ce que Paul décrit, les Corinthiens s'étaient divisés en factions, revendiquant au détriment de l'unité une appartenance exclusive pour la personne par qui ils avaient été baptisés. La division semblait être effectuée principalement autour des partisans de Paul et de ceux d'Apollos, dont il est question en Actes 18, versets 24 à 28. À la lumière de ce qui vient d'être dit, il est désormais facile de comprendre que Paul adresse des reproches aux Corinthiens, non seulement pour leur conduite morale relâchée, mais aussi et surtout pour leurs petites querelles intestines qui cadrent assez mal avec les épreuves que subissent Paul et ses compagnons alors qu'ils évangélisent Éphèse, ville où les déboires furent nombreux. Confère 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 31 à 32 et Actes chapitre 19. Il faut en effet préciser donc que Paul lui-même laisse entendre qu'il écrit la première épître aux Corinthiens pendant son séjour à Éphèse. Confère 1 Corinthiens 16, verset 8. Donc l'opposition entre les Corinthiens riches de leur querelle, dont ils peuvent se payer le luxe, et Paul qui ne l'est pas, riche, verset 8, lui qui est mis à la dernière place, verset 9, et considéré comme le balayeur du monde, verset 13, s'éclaire d'elle-même au vu du contexte. Ainsi le sens littéral, nourri du sens historique, saute aux yeux. Les divisions doivent s'effacer devant la priorité des priorités, qui est d'annoncer le Christ. Seul le Christ doit focaliser l'énergie du disciple et non de tel ou tel leader. En conséquence, la priorité est non seulement à l'annonce explicite du Christ, mais aussi à la conversion de vie, notamment au niveau des mœurs, qui seul peut rendre crédible, donc cette conversion, le témoignage auprès des païens. Seigneur, pardonne-nous nos divisions, que des divisions dans nos églises, dans nos paroisses, parmi les chrétiens. Apprends-nous, Seigneur, à moins regarder notre nombril et à plus regarder le monde qui a tant besoin de toi. Alors les divisions s'effaceront d'elles-mêmes devant l'urgence de la mission. Oui, vraiment, donne-nous ce regard. Amen. Je vous propose maintenant le sens allégorique, c'est-à-dire un sens qui est surtout centré sur le Christ et sa mission et son œuvre, notamment pleinement réalisée à la croix. Ce texte est de toute évidence construit autour d'une opposition, comme nous l'avons déjà vu avec le sens historique. Il y a d'un côté les Corinthiens qui semblent être pourvus de tout, alors que l'apôtre et ses collaborateurs souffrent mille maux pour le Seigneur. Cette opposition est tellement forte qu'elle fonctionne même par antithèse. C'est ainsi que nous voyons Paul opposer dans ce passage les expressions suivantes. Nous sommes fous, vous êtes sages. Nous sommes faibles, vous êtes forts. Nous sommes méprisés, vous êtes honorés. Ensuite, il oppose non plus la situation des Corinthiens à la sienne, mais bien plutôt son attitude et celle de ses compagnons à l'attitude de ceux auxquels ils sont confrontés à Éphèse. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Verset 12. Calomniés, nous parlons avec bonté. Verset 13. Toutes ces antithèses ne sont évidemment pas sans rappeler ce que le Christ lui-même a vécu. Il a été injurié et il n'a pas répondu. Confère 1 Pierre, chapitre 2, verset 23. Le Christ a été persécuté sur la croix, mais il a supporté la croix. Il a tout supporté. Il a agi avec bonté envers ceux qui le persécutaient. De plus, ce passage de saint Paul où l'apôtre insiste sur sa situation misérable ainsi que sur celle de ses compagnons, confère condamnés à mort, souffrons la faim, la soif, la nudité, sommes maltraités, sommes les balayeurs du monde, le rebut de tous, etc. Donc, sa situation misérable à l'apôtre, ainsi que celle de ses compagnons, pourrait s'appliquer aisément au Christ lui-même. Ce Messie souffrant, qui de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour nous, afin de nous enrichir par sa pauvreté, comme Paul le dit lui-même dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 8, verset 9. Enfin, si l'on revient sur les premières antithèses exprimées en rapport avec les Corinthiens, l'interprétation allégorique montre le sacrifice du Christ sur la croix sous un jour nouveau, celui du transfert. Paul établit en effet un parallèle entre la situation aisée des Corinthiens et sa misère, comme si l'une dépendait de l'autre, tels des vases communicants. Et c'est bien ainsi qu'il faut comprendre le sacrifice expiatoire du Christ, confère Isaïe 53. Il a pris sur lui nos péchés, nos manquements et nos fautes, pour nous ouvrir les portes de la guérison ici-bas et celle du ciel dans l'au-delà, un peu à la manière d'un ami qui prend sur lui d'effacer l'ardoise et de nous sortir ainsi du pétrin, et ce, quoi qu'il en coûte. Oui, Seigneur, merci d'avoir pris sur toi tout ce qui nous entravait, tout ce qui nous salissait, tout ce qui nous rendait vraiment malheureux. Merci Seigneur d'avoir pris tout sur toi, sur la croix, de l'avoir cloué sur la croix, de nous avoir pleinement libérés. Amen. Et Seigneur, vraiment nous te prions pour que nous goûtions toujours plus cette libération au plus profond de nos cœurs, dans notre vie aussi. Oui Seigneur, que nous soyons vraiment des chrétiens libres, à l'image de Paul qui, malgré ses souffrances, était plus libre que ses Corinthiens déchirés de leur querelle. Amen. Donc je vous propose maintenant de relire le texte à la lumière de ce que nous venons d'interpréter. Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, sans nous vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants, çà et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayeurs du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. Je vous propose maintenant une prière pour vraiment assimiler cette lecture, pour qu'elle devienne nourriture. Seigneur, donne-nous l'intelligence plus claire de tes autres prophéties. Ouvre davantage nos sens à la vérité et fais-nous comprendre ce que tu as inspiré en toi, Christ Jésus, notre Seigneur, à qui appartient la gloire et la puissance. Amen. Fin de l'enregistrement.